Alors, à la fin de l'année passée, le Seigneur m'a fait entrer dans un nouvel engagement professionnel, comme vous savez déjà. Il y a 40 mois que je travaille comme aumônier dans le soutien aux requérants d'asile. Et dans ce cadre, chaque semaine, je visite deux centres fédéraux d'accueil. D'abord à Valorbe, là c'est des familles et puis des personnes seules. Et puis je suis aussi au centre des Rochats, c'est un peu plus loin, direction de Neuchâtel. Et là c'est des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes, des enfants qui sont venus sans leurs parents. En tout, ça fait entre 200 et 300 personnes. Et du coup, je suis amené à accompagner pas mal de gens, des gens très différents dans des histoires de migration et démarches de demande d'asile. Ça, c'est un thème très actuel, n'est-ce pas ? Fuite, migration, recherche d'asile, c'est même devenu, disons, une question mondiale aujourd'hui. Et ça concerne aussi la Suisse. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre avec vous le temps d'écouter ce que la Bible dit sur ce sujet. Écoutez la Bible sur ce sujet. Jésus nous dit dans l'Évangile, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est dans Matthieu 24, au verset 6. Alors, il y a toujours eu des nations, des tribus, des familles ou d'autres groupes humains qui s'affrontent. Et maintenant, encore plus. Et à cause de ça, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui doivent fuir leur lieu de vie et parcourir le monde à la recherche d'un nouveau lieu qui les accueille. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur un texte de la Genèse. C'est quand Jacob doit fuir loin de chez lui. Dans sa famille, il y a un bon moment que ça ne va plus entre lui et son grand frère Ésaü. Un peu avant dans le texte, la Bible nous dit que maintenant, Ésaü a même l'intention de tuer Jacob. Du coup, Jacob doit s'enfuir, tout seul. C'est dur et ça ébranle beaucoup. Mais regardons notre texte. Il s'agit de Genèse 28, les versets 1 à 3, plus 10 à 15. Alors je vous lis les deux premiers versets. Je lis. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Va à Padan Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Alors, Isaac bénit Jacob, et il fait quoi? Il lui donne une direction. Il lui dit, va chez Laban, le frère de ta mère, et prends là-bas une femme parmi ses filles. C'est que dans la famille proche, ça veut dire Abraham, Isaac, Jacob et les autres autour, dans la famille proche, il y a vraiment une grande connaissance de Dieu. Et le chemin de Dieu, c'est de ne pas dilapider cette connaissance en se liant avec d'autres familles, d'autres traditions, etc. Alors, pour le moment, Jacob va aller continuer sa vie là-bas. Et pour lui, effectivement, ça va être le début d'un chemin de bénédiction. Je lis le verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. Alors, devenir fécond et se multiplier, Ça, c'est la bénédiction que Dieu avait déjà promise à Adam, à Noé, à Abraham, à Isaac, et maintenant à Jacob. Mais là, c'est encore plus. Hein? C'est pas seulement tu auras beaucoup de descendants et tu deviendras un grand peuple. C'est même tu deviendras une foule de peuples. Du coup, ici avec Jacob, on voit déjà poindre en arrière non seulement le peuple d'Israël, mais encore toute l'Église. Et toute l'Église comprise comme, je lis, cette grande foule que nul ne pouvait compter de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ça, c'est dans Apocalypse 7, au verset 9. Je reviens au texte. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Alors, Haran, c'est une ville bien plus au nord. Hein, c'est vers la source de l'Euphrate. C'est là qu'autrefois, la famille d'Abraham s'était arrêtée dans leur pérégrination. Hein, ils avaient posé leur sac et ils s'étaient établis dans cette région. Et c'est de là qu'Abraham était reparti et qu'il avait continué son chemin tout seul vers la terre promise, tout seul avec son neveu Lot. Et ici, dans notre texte, en fait, Jacob fait pareil. Il quitte tout et il continue seul. Je lis au verset 11. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Alors Jacob avance. Et quand le soleil se couche, il se couche. Hein? Il ne choisit pas l'endroit. C'est important. Et le Seigneur va le rencontrer là, dans ce lieu où il est. En fait, le Seigneur vient rencontrer Jacob, là où il est, pendant son voyage. Mais il y a plus. En fait, on peut même dire que le Seigneur amène Jacob devant lui. Écoutez le verset 12. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Là, où Jacob se trouve à présent, hein, c'est le maximum possible de proximité avec Dieu. C'est juste devant la porte de son royaume. Et Jacob n'a rien fait pour. Hein, cette rencontre, c'est vraiment l'initiative du Seigneur. Elle a lieu dans un rêve, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. N'empêche que c'est une vraie révélation. Voilà, mais avant d'aller plus loin, on va faire le point. Jacob est parti de Beersheba et il va à Haran. Ça fait un peu plus de 800 kilomètres à vol d'oiseau. Et à cette époque, avec leurs moyens de communication et de locomotion, eh bien, cette distance-là, c'était vraiment le monde inconnu. Alors oui, Jacob est en fuite, il a tout perdu, il est déraciné, et en plus, probablement, il est aussi inquiet, parce qu'il ne sait pas dans quoi il va tomber. Et peut-être qu'il n'a même jamais vu les gens qu'il va rencontrer. Mais le Seigneur vient lui parler sur son chemin. Écoutez le verset 13. Je lis, Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, c'est-à-dire de l'échelle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Je suis l'Éternel. Et pour commencer, le Seigneur montre à Jacob qu'il est avec lui, qu'il l'accompagne et il lui rappelle qui il est. Et puis, il lui fait des promesses. Ici, une première, « Je te donnerai cette terre. » Et ce n'est pas tout. Écoutez les versets 14 et 15. Je lis les versets 14 et 15. Ta descendance, sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Alors, il y a en tout 7 promesses. 7, on le voit parce qu'il y a 7 verbes au futur. Entre ici et puis le verset d'avant. Il y en a un dans le verset d'avant. Ces promesses, elles touchent l'œuvre de Dieu pour le monde. Mais elles touchent aussi l'appel de Jacob dans cette œuvre. Et puis, pas seulement. 3 de ces promesses, elles touchent également Jacob dans sa vie intérieure, personnelle. Alors, je les ai rassemblées sur un seul slide. Et je vais lire cela. On va regarder le prochain slide. Voilà. Alors, ces 3 promesses, regardez. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Et puis, je te garderai partout où tu iras. Et enfin, je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Alors, première question, est-ce qu'on peut regarder ces promesses de manière séparée? Oui, bien sûr. Hein? Il y a, si je puis dire, plusieurs côtés dans la bénédiction de Dieu. Et ici, dans ces 3 promesses, c'est ce que Dieu fait spécialement pour Jacob, son serviteur, pour son être intérieur. Alors, réfléchissons. Ces 3 promesses, c'est « Je te donnerai une terre, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas, et je vais accomplir mes promesses, et je vais ouvrir les portes devant toi. » Alors nous allons nous arrêter un moment sur ces 3 promesses, parce que c'est par elles que le Seigneur va réenraciner Jacob dans son chemin de vie. Et ça, c'est intéressant. Jacob est déraciné, hein, comme nous avons dit, mais Dieu lui-même va faire ce qu'il faut pour le réenraciner dans son nouveau chemin, c'est-à-dire. Et pour ça, il lui redonne la paix, une terre où tu seras chez toi, et puis la sécurité, hein, je te garderai, et enfin l'espérance. Je ne t'abandonnerai pas, j'ouvrirai les portes sur ton chemin. Alors, voilà la bénédiction. ou plutôt en tout cas, c'est le côté humain de la bénédiction. Paix, sécurité, espérance. Et ça, ça va habiter la vie intérieure de Jacob. Et ça aussi, ça va lui donner la force de continuer. Hein, à côté, bien sûr, de la foi, la confiance au Seigneur, la relation avec lui. Mais allons encore un peu plus loin. Dans ces trois promesses, la grâce que le Seigneur fait à Jacob, c'est de lui redonner des racines. Hein? Et en fait, la Bible nous le montre ici pour nous rappeler que c'est quelque chose que le Seigneur désire faire pour chacun de nous. Nous redonner des racines, ou nous donner des racines. Hein? Avoir des racines dans son lieu personnel de vie, ça, si je puis dire, ça fait partie du plan général de grâce de Dieu pour tous les hommes. Hein? De même que, vous connaissez la phrase, Dieu fait briller son soleil sur les justes et les injustes. Hein? De même, c'est vraiment son plan, son chemin, d'accorder à chacun des racines dans son lieu de vie, en permettant à chacun de trouver là où il est la paix, la sécurité, l'espérance, comme il redonne ici à Jacob. En fait, on pourrait dire que ça fait partie de ce que Calvin appelait la grâce générale. Alors, du coup, là, il y a un appel pour nous. Cet appel, c'est de laisser le Seigneur nous entraîner dans son œuvre pour redonner à ceux qui sont déracinés autour de nous hein, la paix, la sécurité et l'espérance, dans la mesure du possible, évidemment. Et justement, cette idée de paix, sécurité, espérance, eh bien, ça nous donne, si j'ose dire, des axes de réflexion pour notre attitude, notre comportement vis-à-vis des gens déracinés qui nous entourent. Et puis aussi, ça peut nous aider à voir ce que par-ci, par-là, le Seigneur peut nous appeler à faire pour eux. Bien sûr, c'est une action qui touche la sphère humaine. Hein, ce n'est pas encore de l'évangélisation à proprement parler, mais c'est le début du témoignage. Un peu comme dans l'armée du salut, vous savez, soupe, savon, et après, salut. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui entourés de gens déracinés. Et bien plus qu'autrefois. Hein, il y a tous les requérants d'asile qui cherchent refuge chez nous, et j'en rencontre beaucoup. Et ils sont un peu comme des Jacob. Alors, le Seigneur nous envoie vers eux aussi. Et là, en fait, le Seigneur nous entraîne à sa suite dans son œuvre. Et ils nous appellent à soutenir dans leur réintégration ceux qui souffrent de déracinement autour de nous. Hein? Et ici, dans notre texte, ce texte avec Jacob, eh bien, le Seigneur nous donne comme une orientation. Dans la mesure du possible, montrer à ces petits Jacob comment faire pour s'intégrer dans notre société? Hein, c'est un peu compliqué. Il y a des démarches administratives, des gens à rencontrer, des formations à faire, et que sais-je encore. Et puis, les accompagner dans leur cheminement. Et enfin, les soutenir jusqu'au bout, et même à l'occasion, les aider dans leur combat. Mais là, pour nous, il s'agit d'abord de nous démarquer et de ne pas faire ce que beaucoup d'autres gens font. Parce que dans notre société, préjugés et discriminations, c'est assez monnaie courante. Un peu comme des réflexes de protection. Alors, demandons au Seigneur de nous libérer de ces réflexes, de nos contacts avec les migrants. En fait, nous avons ici comme une double mission. D'une part, faire l'effort de dépasser nos préjugés et nos réflexes de discrimination, puis aller à la rencontre de celui qui est déraciné, en faisant preuve d'ouverture. Pour le dire autrement, essayer d'entrer en dialogue avec lui en laissant d'abord tomber nos a priori. Et puis d'autre part, faire l'effort de nous demander, dans ce contexte social que nous, nous connaissons bien, eh bien, nous demander comment nous pourrions contribuer à lui apporter la paix, la sécurité, l'espérance, à celui qui souffre de déracinement juste à côté de nous, et puis le mettre en pratique. Mais soyons concrets. Comme dans la plupart des pays européens, il y a aujourd'hui en Suisse un grand nombre de requérants d'asile, dont une bonne proportion d'enfants. Et pour tous, leur voyage jusqu'ici a été, comment dire, une expérience écrasante. Ils ont ramassé bien des coups et des blessures. Ils ont fui de chez eux. Ils se sont cachés. Ils étaient faibles. Alors on a volé leur argent. On les a dénigrés. Et puis, même si ce n'est pas le cas pour tous, la plupart, ils étaient vraiment en danger chez eux quand ils sont partis. Ils n'ont pas eu le choix entre rester ou partir. Ce n'est pas juste par choix ou sur un coup de tête qu'ils ont traversé une dizaine de pays à pied, illégalement, en se cachant tous les jours et en risquant leur vie. Alors pour nous, accueillir les migrants et les aider dans leur intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à la base, c'est déjà simplement nous intéresser à eux, plutôt que les rejeter ou même les ignorer. Et c'est ouvrir une relation d'écoute avec eux. Sans les juger d'entrée et sans vouloir à tout prix leur donner des conseils. Ça, c'est déjà le contraire du dénigrement. Et ça, nous pouvons tous le faire. Rien qu'en développant un contact avec une de ces personnes migrantes, eh bien, nous pouvons déjà la soutenir et entrer dans l'œuvre du Seigneur vis-à-vis d'elle. D'ailleurs, peut-être que le Seigneur a déjà commencé son œuvre avec cette personne. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Dans le centre d'asile de Vallorbe, j'ai rencontré un homme qui avait été poursuivi dans son pays par, disons, un groupe très violent qui voulait s'attaquer à sa personne. Alors, il a dû fuir, il a traversé un bon nombre de pays avant d'arriver en Suisse. Mais pendant son voyage, il a rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, il est dans l'Église. Et puis un autre exemple. Ça, c'est un couple de chrétiens. Ils sont arrivés en Europe en traversant la Méditerranée. Alors, à un moment donné, sur leur bateau, ils étaient en mer, ils étaient perdus, c'était la nuit, et ils n'avaient presque plus d'essence dans leur moteur. Alors ils ont prié et ils ont encouragé leurs compagnons à ne pas désespérer. Et bien tout d'un coup, ils ont vu au loin une lumière. Alors ils sont dirigés dans cette direction et ils ont été récupérés par un chalutier qui se trouvait ici. Ce n'était pas du tout prévu. Et quand ils m'ont raconté cette histoire, ils m'ont dit toute leur reconnaissance au Seigneur. Alors je conclus. Au début de notre texte, Jacob est en fuite, il a tout perdu. Et surtout, il a perdu son enracinement dans son contexte de vie. Mais le Seigneur l'accompagne, il se révèle à lui, il lui fait des promesses. Et Jacob retrouve une place dans le monde qui l'entoure. Et à nous, notre texte nous a rappelé que l'œuvre créatrice de Dieu, ce n'est pas seulement de nous faire naître et vivre dans ce monde. C'est aussi justement de nous donner à chacun une place au milieu de ceux qui nous entourent. Alors maintenant, dans notre situation sociale actuelle, le Seigneur nous donne une occasion particulière d'entrer dans son œuvre, concrètement, et au moyen et à l'intérieur de nos relations sociales. Il nous invite à accompagner des personnes qui ont été déracinées de leur lieu de vie, comme des Jacob. Ça veut dire accompagner ces requérants d'asile qui se présentent chez nous pour leur permettre de retrouver des racines. Ça veut dire de retrouver la paix, la sécurité et l'espérance. Ça veut dire les soutenir, les aider. Lorsque nous le pouvons, leur montrer le chemin. Parce que nous le connaissons ce chemin, nous le voyons. Mais ça nous demande à nous de faire l'effort de dépasser nos préjugés et d'aller à leur rencontre. Alors voilà, nous démarquer et ne pas faire comme Monsieur Tout-le-Monde et puis vouloir répondre à cet appel que le Seigneur met devant nous. Et vouloir entrer dans son œuvre. Nous prions. Seigneur Père, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple que tu nous donnes, pour le chemin que tu ouvres devant nous. Seigneur, nous voulons te présenter maintenant cette question de notre relation avec tous ceux qui sont déracinés autour de nous. Montre-nous, Seigneur, le chemin. Donne-nous des occasions d'être à ton service, dans ton œuvre. Dans le nom de Jésus, nous te demandons cette bénédiction. Amen.